Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religion du Monde, ce dimanche, le projet de loi sur le séparatisme, l'encyclique du pape François sur la fraternité et puis le fanatisme. Comment sortir de cette maladie de la vie spirituelle? Nous serons en ligne du Caire avec le dominicain Adrien Candiar qui signe un manifeste original sur ce sujet.
Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement. Et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. Le problème, c'est cette idéologie qui affirme que ses lois propres sont supérieures à celles de la République.
Le vendredi 2 octobre, au Mureau, dans les Yvelines, le président Emmanuel Macron présentait les grandes lignes du projet de loi sur le séparatisme, un projet très attendu dont l'annonce avait été plusieurs fois reportée. Difficile exercice d'équilibre, en effet, entre la désignation d'un ennemi de la République, commun à tous, l'islam radical, sans que les musulmans de France se sentent stigmatisés. Ce qui explique le changement d'intitulé de ce projet de loi et qui devrait s'appeler « Projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains » et non plus « Loi sur le séparatisme », cela pour donner une image plus élargie du champ d'application. École obligatoire dès l'âge de 3 ans, fin sous 3 ans du système des imams étrangers détachés, mise en place d'un contrat de respect des valeurs de la République pour les associations qui reçoivent des subsides. Les mesures sont nombreuses, précises. Le projet de loi sera présenté le 9 décembre prochain en Conseil des ministres. En attendant, nous allons écouter les réactions d'acteurs de terrain et de responsables du culte musulman. Avec nous en ligne, Najwa El-Haïté, adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes, en charge de la culture et de la transformation digitale, docteur en droit et très prochainement avocate. Najwa El-Haïté, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Alors, concernant ce projet de loi, alors déjà une question sur le glissement sémantique. Le ministre de l'Intérieur et des Cultes, Gérard Darmanin, a parlé d'un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains, alors qu'avant, le projet de loi, semblait-il, se serait intitulé « Projet de loi sur le séparatisme ». Est-ce que vous pensez que ce glissement sémantique est plus neutre? Mais est-ce que dans le même temps, il ne désigne pas moins le sujet, à savoir qu'au cœur de l'islam, eh bien, il peut y avoir chez certains, dans certaines mouvances, un mode de vie séparatiste? Najwa El-Haïté.
Moi, je pense que c'est un faux débat. Je vais vous dire pourquoi. Le président de la République, dans son allocution, a été très clair. Il a ciblé l'ennemi, c'est l'islam radical. Il a été sans ambiguïté et avec des propositions concrètes, notamment la formation des imams détachés, le renforcement de la neutralité religieuse quand on parle aussi de délégation de services publics, l'enseignement de l'arabe, l'instruction obligatoire des 3 ans. Donc il a eu un discours fort, important, puisqu'on l'attendait également sur cette question-là. Et je pense que ce changement, entre guillemets, sémantique, il est avant tout juridique plus que politique. Pourquoi juridique? Parce que le gouvernement ne peut pas avoir un nouveau pamphlet, un nouvel échec politique. Je vous rappelle que 2 projets et propositions de loi ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, et donc les mots ont un sens et doivent être pesés. Je vous rappelle que le projet de loi Avia sur la haine en ligne a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Vous avez également une proposition de loi instaurant des mesures de sûreté pour les condamnés terroristes qui a été retoquée également par le Conseil constitutionnel. Et donc le gouvernement, il est dans son rôle, c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en place une loi dont l'application est universelle, c'est-à-dire qu'il s'agit bien sûr de cibler l'islam politique, mais il s'agit également de cibler toutes les dérives sectaires. Vous voyez? Donc il n'y a pas de discours édulcoré, etc.
Il n'y a pas de recul, c'est ça,
Non, il n'y a pas de recul et à mon avis, il faut attendre ce texte et je mets ma main au feu qu'il n'y a pas de recul. Le président de la République a été très clair, il a nommé les choses et on peut saluer ce discours. Salutaire.
Et quelle est pour vous la mesure la plus emblématique de toutes celles proposées? Vous avez cité effectivement plusieurs mesures, la scolarisation obligatoire dès l'âge de 3 ans pour éviter que des enfants puissent être éduqués uniquement à la maison, scolarisés uniquement à la maison avec des dérives possibles. Quelle est pour vous la mesure la plus emblématique, Najwa El Haïtès?
Alors, la mesure la plus emblématique, c'est déjà sans que l'État... Bien sûr, il n'est pas dans le rôle, parce que la laïcité interdit à l'État de s'immiscer dans l'organisation d'un culte, quel qu'il soit. Ça, c'est une affaire, c'est l'affaire des croyants, qu'ils soient catholiques, musulmans, protestants, etc., ou juifs. Ça, c'est l'affaire des fidèles. Néanmoins, là où le discours du président de la République a été très fort, c'est qu'il y a une réaffirmation de nos valeurs républicaines. L'égalité des femmes entre les hommes en fait partie. Bon, il y a ces tests de virginité, la lutte contre la polygamie. Ça, c'était important aussi de rappeler ce principe important d'égalité entre les femmes et les hommes. Deuxièmement, également la formation des imams qui pose une vraie difficulté parce que, comme vous le savez, la formation des imams dépend de certains pays étrangers. Et donc, il s'agissait aussi pour l'État de mettre sous la responsabilité notamment du Conseil français du culte musulman le fait qu'il leur appartient de former ces imams en France, au sein de la République, et non pas sous l'influence d'États étrangers. Donc ça a été un principe qui a été rappelé, laïque. Également, vous le rappeliez, l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans. Donc je sais que certaines associations sont contre sur le fondement de la liberté d'enseignement en estimant qu'il fallait développer les contrôles. Mais je pense que c'est une mesure forte et qu'il y a des exceptions qui concernent les familles itinérantes, la santé, etc. Mais là aussi, c'était une mesure forte de la part du président de la République pour lutter aussi contre cette déscolarisation qui est rampante et qu'on ne comprend pas dans certains quartiers. Ouais, sur nos territoires, il y a des enfants qui étaient scolarisés et qu'on voit d'une année sur l'autre, et ça c'est vraiment en augmentation, être déscolarisés. Donc ça interroge quand même. Et donc d'où cette mesure également. Donc voilà, les grandes mesures, c'est vraiment que les Français de confession musulmane se réapproprient leur religion, parce que c'est pas à l'État de se charger de ça, mais en tous les cas, l'État est là pour pousser à cela, pour que les valeurs républicaines soient aussi relayées par des imams qui viennent aussi relayer un discours religieux, etc. Mais il faut qu'ils soient en phase avec nos valeurs républicaines. Et vous avez aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc je me répète, mais c'est quand même un principe auquel nous tenons.
Alors on a pu voir effectivement dans des sondages que beaucoup de jeunes, en fait, estimaient que la loi religieuse était supérieure à celle de la République. Alors comment sortir, j'allais dire, ça de la tête à ces jeunes qui ne voient pas qu'en fait ça n'est pas du tout dans leur intérêt?
Là encore, c'est un vrai problème. Vous voyez que l'idéologie, qu'elle soit wahhabiste, salafiste ou frériste, gagne du terrain. Ça, c'est une réalité et ça touche en priorité les jeunes. Il n'y a qu'une réponse, c'est l'égalité des chances. C'est l'école, c'est-à-dire vraiment faire tout pour lutter contre les inégalités scolaires. C'est la culture aussi, la culture touche aussi, enfin, doit aussi être un principe qui rassemble. Faire partager un récit national auprès de ces jeunes qui sont désemparés, parce qu'il ne s'agit pas de faire changer d'avis à ces idéologues. Ce n'est pas les idéologues qu'on cible. Eux, ils sont dans leur rôle, entre guillemets, dans ce rôle, pour certains, mortifère. Il s'agit de cibler une jeunesse qui est en crise identitaire,
en mal de repères,
mais aussi,
oui.
Qui n'ont pas de repères. Il s'agit de cibler cette jeunesse qui risque de basculer dans cette idéologie-là. C'est eux, en fait, que le président et le gouvernement ciblent. C'est ces jeunes-là, parce qu'on ne veut pas les voir basculer et être en phase avec cette idéologie qui est mortifère, dangereuse pour l'unité de notre nation.
Et effectivement, alors, la question aussi, c'est comment redonner, Najwa El Haïtès, redonner le goût de la cohésion.
Comment... Eh bien, je parlais de l'école, une mesure concrète. Pour lutter contre les inégalités scolaires, le gouvernement a pris une mesure, il ne s'agit pas de faire du blabla, le dédoublement des classes au CP et au primaire, c'est une mesure forte pour lutter contre ces inégalités. Là, il s'agit également de lutter contre le chômage dans certains quartiers qui peut atteindre 40%. Vous voyez, il y a des jeunes qui sont tentés par la délinquance, parce que c'est l'argent facile, etc. Donc il s'agit de dire à ces citoyens qui sont français qu'ils ont toute leur place. Et ça passe par la réussite scolaire et par l'émancipation sociale. L'émancipation sociale, ça doit pas être un fantasme, ça doit être une réalité. Et donc le rôle du politique, c'est de faire que cette émancipation sociale s'incarne réellement auprès de ces jeunes.
Quelques mots sur l'enseignement de l'arabe. Est-ce que vous estimez effectivement que c'est une bonne idée? Ça permettra à des jeunes qui apprenaient l'arabe dans des associations parfois un peu douteuses, eh bien de se retrouver dans un cadre, vraiment un véritable cadre scolaire où l'arabe sera enseigné?
Eh bien, je pense que le président de la République a entièrement raison. C'est-à-dire que l'enseignement de l'arabe ne doit pas se faire dans une mosquée. L'enseignement de l'arabe ne doit pas se faire dans des associations qui prennent la forme d'écoles plutôt clandestines. Ça, ce n'est pas possible en République française. Et quand on parle de l'enseignement de l'arabe, parce que certains disent « Ouh là là, c'est une langue pratiquée par des barbares », parce que j'entends cela, hein, ben déjà c'est un scandale, c'est ignoré qu'on parle de l'arabe littéraire. Je rappelle qu'il y a eu des très très grands poètes comme Khalil Gibran, les premiers traducteurs des philosophes comme Platon, Aristote, les premiers traducteurs de la langue grecque, ça a été les Arabes.
Oui, ça se passe à Bagdad, oui.
Mais voilà, et ça me tue qu'on ignore cette histoire-là, vous voyez. Et l'enseignement de l'arabe littéraire, au contraire, ouvre une immense littérature philosophique, poétique à des jeunes, et ça permet même, je vais vous dire, d'avoir sa propre interprétation des textes sacrés, plutôt que de se faire manipuler. Parce que vous citiez le sondage où ces jeunes se font, basculent dans cette idéologie dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, je mets ma main au feu que ces jeunes-là ne pratiquent même pas la langue arabe. Ils ne la connaissent pas. Et donc c'est ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur dit. S'ils apprenaient l'arabe à l'école, plutôt que de, pour certains, l'apprendre à l'extérieur de l'école républicaine, eh bien il y aurait cette ouverture d'esprit et cette analyse critique par rapport au discours mortifère qu'on leur vend. Vous voyez, donc pour moi, oui, l'arabe, comme toute langue étrangère, comme l'anglais, l'allemand, a toute sa place au sein de l'école républicaine.
Dernière question, Najwa El Haïté, que je pose là à l'élu local. Hein. Est-ce que ce projet de loi pourrait mettre fin à ce qu'on appelle le clientélisme, à des maires qui n'étaient pas assez regardants, voire qui étaient dans la compromission?
Oui, ce projet de loi, eh bien, sert aussi à lutter contre le clientélisme. Parce que, comme vous le disiez justement, il y a des maires qui sont soit naïfs, ou soit qui pratique le clientélisme et qui répond aux desiderata de certaines communautés. Et ça, là encore, ce n'est pas possible au sein de notre République. La République française, ce n'est pas l'addition des communautés auxquelles on répond par rapport à des demandes particulières, des menus halal ou... la séparation des horaires
piscine
entre les femmes et les hommes, ça, ce n'est pas possible. Et donc, ce projet de loi, je l'espère, permettra de lutter contre le clientélisme de certains élus locaux, hélas.
Merci Najwa El Haïté. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire d'Évry-Courcouronnes. Et l'on rejoint François Pupponi, qui fut maire de Sarcelles pendant 20 ans jusqu'en 2017, qui est aujourd'hui député du Val d'Oise et qui a publié aux éditions du CERF « Les Émirats de la République, comment les islamistes prennent possession de la banlieue ». François Pupponi, bonjour.
Bonjour.
Comment avez-vous reçu les paroles d'Emmanuel Macron, son projet de loi, les grandes lignes, hein, on n'a pas tout, mais les grandes lignes de ce projet de loi sur le séparatisme, qui du reste a changé de nom? Est-ce que déjà vous regrettez ce changement d'intitulé?
Non, écoutez, d'abord, moi j'ai reçu très positivement et goût de satisfaction le discours du président de la République. J'en appelais de mes voeux depuis longtemps, j'en ai d'ailleurs même parlé avec quelques autres élus. Il fallait que le président parle d'un sujet qui est fondamental pour l'avenir de notre pays et qui traverse toutes les lignes politiques. Il a dit les mots, il a dénoncé l'ennemi, il a dit qu'il ne voulait pas stigmatiser la communauté musulmane et qu'il fallait que la République reparle de laïcité. C'est exactement ce que je pensais, donc je ne peux que saluer son discours. Après, sincèrement, séparatisme ou autre chose, ça n'a pas d'importance. Ce qui était important, c'était de dire qu'il ne faut pas stigmatiser une communauté et une religion dans un pays qui a tout à fait sa place, et la quasi-totalité des Français de confession musulmane sont des citoyens qui respectent la République, mais qu'il faut s'attaquer à ceux qui décident de s'en séparer, de l'attaquer et de la mettre à mal. Alors on peut appeler ça République, laïcité ou séparatisme, tout le monde a compris que l'on parlait de quelque chose qui était important et qu'il ne fallait pas, je répète, stigmatiser tout en désignant l'ennemi de la République. C'est ce qu'a fait le président de la République. Alors on verra dans le débat législatif comment les choses évolueront, mais pour l'instant, le message qui est passé me paraît tout à fait positif.
Quelles sont les mesures les plus emblématiques selon vous? Est-ce que c'est l'école par exemple, avec donc ces parents qui scolarisent leurs enfants à la maison, sans contrôle? Qu'est-ce qui vous paraît le plus emblématique dans ce projet de loi?
Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, la scolarisation de l'école, c'est fondamental. Il y a à la fois la fin visiblement annoncée, on verra si au niveau législatif on peut le faire, la fin annoncée de l'instruction à domicile. Il y a le contrôle renforcé sur les écoles hors contrat, c'est important aussi parce que ce sont des lieux où il se passe beaucoup de choses. Il y a aussi l'organisation du culte musulman qui est également fondamentale. Et puis le contrôle des associations, en tout cas éviter que les associations soient des lieux qui soient là pour attaquer les bases de notre République. Donc je pense que les grands axes qui ont été fixés par Jean-Luc sont ceux qui sont remontés du terrain. Il a entendu ce que les acteurs ont dit, il a compris la situation, il l'a analysé et je pense d'une bonne manière. Et donc voilà, il va falloir maintenant s'attaquer à ces trois grands sujets, l'école, le secteur associatif et également ensuite l'organisation du culte musulman. Et je pense que nous avons du travail important à réaliser à l'Assemblée nationale et au Parlement. Et c'est tout le débat que nous aurons à partir du 9 décembre.
Est-ce qu'il y a, dernière question, François Pipponi, est-ce qu'il y a des manques selon vous dans ce projet de loi, des points qui n'apparaissent pas?
Bien sûr.
Vous pensez à quoi?
Les manques que j'ai tout de suite relevés, c'est que la volonté politique y est. On sera en capacité, je pense, de voter une loi qui ira dans le bon sens. Après, toute la question sera de la capacité de l'appareil d'État et des institutions républicaines de mener cette bataille. Car le grand problème aujourd'hui, et une partie des projets de loi qui sont proposés, c'est pour faire un constat d'échec. Quand on dit que l'on va interdire l'instruction à domicile parce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à contrôler, c'est quelque part un constat d'échec. C'est-à-dire que les institutions républicaines, l'État et les collectivités locales n'arrivent pas à contrôler ce qui se passe dans l'instruction à domicile. Voilà. Donc devant ce constat d'échec, on est obligé de légiférer pour interdire quelque chose que l'on n'est pas capable de contrôler. Donc le grand problème aujourd'hui de notre pays, c'est la capacité qu'il aura à mettre en œuvre les mesures. Et là-dessus, quand le président de la République dit qu'il faudra renforcer les contrôles, il faudra organiser, oui, très bien, mais qui, quand, comment? Et avec quels moyens? Donc ce qui manquait un peu dans le discours du président, et ce sera l'objet du débat public, c'est comment on fait maintenant. La volonté au plus haut niveau de l'État, elle est affichée, c'est une très bonne chose. Est-ce que notre République sera capable de mettre en œuvre ce que veut l'Empire République? Là, c'est une autre question, et on verra si la France est au rendez-vous de l'histoire.
Je vous remercie, François Pipponi, je vous remercie. Du côté des responsables musulmans, on note un accueil positif à ce projet de loi sur le séparatisme. La veille du discours d'Emmanuel Macron, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems Edine Hafiz, a porté son soutien à l'initiative présidentielle dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde, dénonçant les islamistes, leur soutien islamo-gauchiste et la complaisance d'élus. De son côté, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, tout en tenant à préciser que le séparatisme concerne aussi les sectes, pour lui, ce discours a le mérite de la clarté. On l'écoute.
Pour les musulmans de France, effectivement, c'est une clarification. C'est-à-dire qu'on vise ceux qui instrumentalisent la religion musulmane contre les valeurs de la République. De ce point de vue, ce combat est aussi le nôtre. Parce que quoi de plus blessant, de plus offensant, de plus humiliant que de voir sa propre religion dévoyée, instrumentalisée pour porter atteinte à son propre pays et à ses propres concitoyens.
Donc on peut considérer que finalement, vous pouvez être les bénéficiaires de cette loi ?
Tout à fait. Je pense que les déclarations du président de la République sur, par exemple, l'aide financière qui va être octroyée à la Fondation Islam de France pour mieux faire connaître l'islam et sa civilisation, le fait de créer des instituts de hautes études islamiques, de créer des formations d'islamologie dans les universités, le fait d'avoir aussi mis un point... J'ai un terme à tous ces débats sur les signes religieux, puisque il a clairement dit que il n'y aura pas d'extension au-delà de ce qui est prévu, donc c'est-à-dire la neutralité dans les institutions où on charge de services publics. Le plan prévoit aussi de renforcer les questions d'égalité entre hommes et femmes. Nous pensons que l'égalité entre hommes et femmes est le corollaire de la dignité ou de l'égale dignité humaine. Et de ce point de vue, c'est un principe fondamental qu'il faudrait effectivement réaffirmer avec force dans toutes circonstances, mais sans jamais tomber dans la caricature qui dessert d'ailleurs ce combat. Le traitement médiatique, par exemple, réservé au certificat de virginité, nous oblige aujourd'hui, hein, en tant que français de coutume musulman, de réaffirmer que l'islam interdit cette intrusion violente et inacceptable dans l'intimité d'une femme. Ce n'est pas une pratique religieuse musulmane, comme malheureusement a été dit à plusieurs reprises.
Dernière question, Mohamed Moussaoui, concernant la formation des imams et aussi la venue en France d'imams détachés. Donc dans 3 ans, il n'y aura plus d'imams venant de l'étranger. Hein. C'est ce que cette loi prévoit, ce projet de loi prévoit. Comment vous allez vous organiser ? Parce que c'était effectivement tout à fait utile, la venue de ces imams, même si dans le fond, c'était aussi problématique.
Hein. D'abord, il faut dire 2 choses. Ces imams, ils représentaient à peu près 10% de l'ensemble des imams de France. Donc ce n'est pas la totalité des imams de France. Par ailleurs, ce qu'il faut dire également, que ces imams n'ont jamais été impliqués dans des problèmes de type d'ordre public où leur tort, c'est de ne pas avoir la langue française et ne pas connaître suffisamment le contexte français. Au-delà, je pense que l'islam de France a intérêt à créer ses propres instituts de formation. Cela passe par la mise en place de cursus agréés, de chartes de l'imamat et d'une procédure de certification et de révocation qui protège à la fois l'imam et les mosquées. Il permettra également de faire barrage à des personnes sans formation, ou pire, parfois, encore à des prêcheurs de la haine de s'adresser aux fidèles de nos mosquées. Le but, évidemment, ce n'est pas de créer un clergé musulman, parce qu'une telle évolution dans cette religion doit faire l'objet d'une réflexion approfondie sur sa pertinence et sa faisabilité. Tout cela, bien sûr, ça va nécessiter un accord entre les composantes de l'islam de France. Donc il va falloir faire beaucoup de réunions, convaincre et sortir avec un projet unitaire. Le but aussi, c'est de permettre à ce que qu'il y ait une certaine harmonisation entre les cadres religieux pour que la parole portée par les imams et les aumôniers soit forte et unie. Cela nécessite évidemment des sources de financement. Pour cela, le Conseil français du culte musulman avait fait des propositions concrètes. Nous espérons que ces propositions soient inscrites dans le projet de loi en préparation.
Je vous remercie, Mohamed Moussaoui. Je vous remercie. Le président Emmanuel Macron, avec ce projet de loi sur le séparatisme, vient-il renouveler la conception de la laïcité à la française ? Question posée à un spécialiste de la laïcité, Philippe Portier, ancien directeur du groupe Société Religion Laïcité au CNRS et vice-président de l'EPHE, l'école pratique des hautes études. Philippe Portier, bonjour.
Bonjour Geneviève Delru.
Alors, ce projet de loi sur le séparatisme devrait s'appeler finalement projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Alors déjà, sur ce changement d'intitulé, votre réaction, Philippe Portier ?
Oui, il y a eu beaucoup de glissements sémantiques dans la rhétorique du président Macron. Dans un premier temps, il a évoqué, comme beaucoup, le communautarisme. Il s'est rendu compte que ce concept était tout de même flou et remettait en cause l'aspiration d'un certain nombre de nos compatriotes à vivre précisément proche de leur communauté d'appartenance. Il est ensuite passé à un concept plus politique, renvoyant à l'idée d'une volonté de séparation d'avec le corpus des lois républicaines. On a parlé alors du séparatisme. Mais en même temps, et c'est ce qui explique le dernier point que vous évoquiez dans votre question, il considérait que qu'inscrire dans la loi ce mot séparatisme visait précisément à créer de la séparation plutôt qu'à créer du commun. Et il est passé ensuite à un troisième niveau sémantique, faisant référence à la laïcité qui permet de rassembler les individus, qui permet de rassembler les communautés autour d'une conception partagée du vivre ensemble.
Alors, question posée aux spécialistes de la laïcité, Philippe Portier, que vous êtes, est-ce que le discours d'Emmanuel Macron représente une rupture, j'allais dire, par rapport à la vision classique, à la vision que l'on a de la laïcité à la française?
Alors, deux remarques. Première remarque, cette rupture, elle est engagée déjà depuis les années 1990-2000, dans le sens d'un système de contrôle beaucoup plus affirmé sur les cultes. La loi de 2004 sur le port du voile ou le port des signes ostensibles religieux à l'école publique en est une première illustration. Est venue ensuite, même si on ne parle pas réellement de laïcité dans le corpus de la loi en question, la loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public a confirmé également cette volonté de contrôle. Alors, il se trouve que le contrôle est désormais renforcé sous l'effet d'une transformation assez nette, semble-t-il, du paysage religieux français. Et dans ce cadre, pour lutter contre la radicalité religieuse, il s'est agi de renforcer un certain nombre de systèmes de surveillance. Alors c'est une rupture avec le modèle initial de la Troisième République, créé dans les années 1880, 1905, 1906, 1907, 1908. Plusieurs lois alors, qui défendaient une conception très libérale de la laïcité. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une laïcité de contrôle bien plus affirmée que sous la Troisième République.
Alors, Philippe Portier, il y a, à commencer par l'école. L'école devrait être rendue obligatoire. Et là, ce projet de loi vise ces enfants qui sont scolarisés à la maison. Est-ce que, pour vous, c'est effectivement un durcissement de la laïcité ?
Alors, c'est un élément parmi d'autres de l'analyse que je un peu globale que je produisais à l'instant. Il y a dans le projet du président Macron un certain nombre de points qui traduisent en effet l'inflexion sécuritaire de la laïcité française. Pour revenir sur la question de l'école, Jules Ferry fait adopter le 28 mars 1882 une loi dans laquelle il précise que c'est l'instruction qui est obligatoire. Et il donne à ce qu'on appelle alors les chefs de famille, les tuteurs, les autres personnes ayant charge d'enfants âgés de 16 à 13 ans, la possibilité de choisir entre l'école publique, l'école qu'on appelle libre à l'époque, c'est-à-dire l'école privée, et puis troisième possibilité, l'enseignement dans le cadre de la famille. Et on s'aperçoit que de ce point de vue, tout ce qui relève désormais de l'éducation, de l'instruction dans le cadre de la famille, se trouve contraint, sauf raison de santé, à disparaître, avec une volonté d'inscrire les enfants dans des écoles désormais sous contrôle strict, l'école publique d'un côté, puis d'autre part, des écoles libres dont on restreint aussi dans le projet Macron la possibilité d'organisation.
Alors, autre disposition dans ce projet de loi, Philippe Portier, la charte que devront signer les associations qui reçoivent des subsides.
Oui, là encore, la formule macronienne me semble introduire une rupture par rapport au corpus des lois de la Troisième République. La loi de 1901 sur les associations est une loi éminemment libérale si l'on accepte les dispositions sur les congrégations religieuses. Mais pour ce qui concerne les associations en tant que telles, c'est une loi éminemment libérale où les contrôles sont de la part de l'État extrêmement extrêmement minime. Or, ce qui advient aujourd'hui, c'est que les associations en question passent d'une certaine manière sous les fourches codines de l'administration qui va les soumettre a priori à des contrôles fondés, comme vous le disiez à l'instant, sur la signature d'une charte qui leur imposerait de respecter les dites valeurs de la République. Voilà, me semble-t-il, ce qui marque dans le projet d'Emmanuel Macron, qui n'est rien d'autre d'ailleurs qu'un projet dans la continuité de ceux des années 90, 2000, 2010, qui visait précisément à renforcer le corps des valeurs communes susceptibles de rassembler les Français et de produire une cohésion qu'on estime aujourd'hui disparue.
Merci Philippe Portier. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'EPHE, l'école pratique des hautes études. Fratelli Tutti, tous frères, c'est le nom de la nouvelle encyclique du pape François publiée le samedi 3 octobre à Assise. Une encyclique sociale sur la fraternité humaine, une encyclique très politique qui se présente comme un réquisitoire contre l'individualisme de nos sociétés, avec un populisme malsain en train de ressurgir, des migrants indignement accueillis. Pour François, le sentiment d'appartenance à une même humanité s'affaiblit et le rêve de construire ensemble la justice et la paix semble une utopie d'un autre temps. Éric Sénanque, bonjour.
Bonjour Geneviève.
Vous êtes le correspondant de RFI au Vatican. Alors, cette encyclique intervient 5 ans après Laudato Si, cette encyclique donc sur la planète, hein, sur l'état de la planète, qui était une encyclique qui appelait à l'éveil des consciences. Là, François choisit le terrain social et il se montre vraiment comme un pape extrêmement inquiet.
Oui, tout à fait. François a fait un constat très sévère, en fait, sur la manière dont le monde va, et le monde va mal. C'est un monde fragmenté, un monde fracturé, hein. C'est vraiment ce qu'il rappelle à travers cette encyclique. D'ailleurs, le premier chapitre a pour thème les ombres d'un monde fermé, hein. Là, le pape dénonce les égoïsmes et des intérêts pour le bien commun, la précarisation de la démocratie, ou voire de la justice et de la liberté, hein, dans certains pays. Donc, c'est un constat très sévère, hein, qui pourrait rappeler celui d'un Benoît XVI, qui était très inquiet aussi sur l'avenir de l'Europe, par exemple. Et on n'en retrouve pas tout à fait, en effet, le même souffle joyeux dans Laudato Si, loué sois-tu, hein, parole de saint François d'Assise, même si, évidemment, le titre de cette encyclique s'inspire directement d'une phrase « Tous frères » du Saint d'Assise, vous l'avez dit, le pape François s'est rendu dans la ville en Ombrie pour signer cette encyclique, et les deux vont bien ensemble, a-t-il rappelé. Donc c'est un constat très sévère sur le monde, mais dans lequel le pape, évidemment, livre un peu sa vision d'une société qui pourrait être réconciliée à l'aune de cette fraternité. C'est un discours, évidemment, sur les relations internationales qui doivent être améliorées, sur le multilatéralisme qui doit être renouvelé, hein. Il parle beaucoup de l'ONU. C'est un discours aussi pour rappeler évidemment que chaque personne, quel qu'il soit, quel que soit son milieu, sa race, sa culture, a une égale dignité. Ça, c'est évidemment un chapitre fondamental de cette encyclique. Donc, derrière, évidemment, le constat sévère, il y a ces petites ouvertures à l'espérance auxquelles le pape François invite chaque homme sur cette planète.
Mais Éric Sénanque, quand même, cette encyclique qui est un réquisitoire, hein, comme je le disais au début, est-ce qu'elle ne risque pas quand même d'être une encyclique, là, cette fois-ci, très clivante?
C'est un petit peu le risque, puisqu'il revient évidemment sur des thèmes qui sont des thèmes très forts de son pontificat, je pense. Pour ne citer que celui-là, le thème des migrations, et on a déjà entendu que certaines critiques virulentes, hein, sur sa vision des migrations, et le pape rappelle finalement, encore une fois, la doctrine sociale de l'Église, il rappelle l'une des lignes fortes de son pontificat depuis le début, c'est-à-dire accueillir les migrants comme des personnes, encore une fois, d'égale dignité. Mais d'ailleurs, il explique bien que, certes, il faut accueillir et mieux intégrer et promouvoir ces personnes qui vivent dans des conditions parfois très difficiles, mais il faut aussi, évidemment, pouvoir défendre le droit de rester dans son pays. Donc, on voit qu'il a une vision quand même nuancée, mais néanmoins, il a une vision très politique, et c'est probablement ce qui risque de lui attirer, évidemment, des critiques.
Éric Sénanque, le grand imam d'Al-Azhar, hein, Ahmed Al-Tayeb, est cité 4 fois dans cette encyclique. Alors, est-ce qu'il faut voir ça comme une main tendue au monde musulman?
Ah oui, c'est clairement une main tendue. Ahmed Al-Tayeb est devenu un ami du pape, hein, il l'évoque d'ailleurs, hein, c'est vraiment un compagnon de route. Ils se sont rencontrés 4 fois, hein. Il est venu 2 fois au Vatican, le pape lui était allé en Égypte en 2017, et puis l'an dernier surtout, le 4 février 2019, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, avaient signé ce document sur la fraternité humaine, qui est donc un peu la, on va dire, le brouillon de cette encyclique, dans lequel les deux hommes, donc chefs spirituels évidemment, rappelaient que les religions sont là pour construire la paix, pour construire des ponts, au-delà évidemment de chaque spécificité, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Donc ces 4 mentions dont vous parlez sont très importantes, et tout le dernier chapitre d'ailleurs de cette encyclique, Fratelli Tutti, est consacré aux religions, les religions au service de la fraternité dans le monde, hein, c'est vraiment le titre de ce chapitre, et le pape rappelle notamment que le terrorisme n'est pas dû à la religion, mais bien à des interprétations déviantes, des interprétations erronées finalement des textes religieux.
On peut dire malgré tout que c'est une encyclique qui est longue, qui mérite d'être creusée, parce que bon, un simple survol ne suffit pas pour comprendre voilà l'appel de ce texte. Nous reviendrons sur cet appel dans Religion du Monde. Merci Éric Sénanka. Nous allons à présent au Caire retrouver frère Adrien Candiard de l'IDEO, l'Institut Dominicain d'Études Orientales, haut lieu de recherche et d'études de l'islam, un institut enraciné dans le dialogue islamo-chrétien. Frère Adrien Candiard publie chaque année 1 ou 2 livres courts, concis, aux messages spirituels bien ciselés qui remportent un vrai succès auprès de ses lecteurs. Le dernier porte sur le fanatisme. Du fanatisme quand la religion est malade, c'est son titre, et ce livre est publié aux éditions du Cerf. Frère Adrien, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous devions nous retrouver à Paris en studio, mais la Covid en a décidé autrement. On n'a pas pour autant renoncé.
Hélas.
Eh oui, hélas. On n'a pas pour autant renoncé donc, à parler de ce petit ouvrage qui bat en brèche des idées reçues pour éliminer le fanatisme. Alors, j'ai noté, le fanatisme n'est pas un excès de Dieu, mais une absence de Dieu. La solution à ce dérèglement du religieux qu'est le fanatisme peut être également religieuse. L'exclusion du discours théologique peut favoriser le fanatisme. Alors, Adrien Candiard, de tout cela, nous allons échanger ensemble. Mais d'abord, votre petit traité s'ouvre sur une histoire tout à fait glaçante, hein, qui s'est déroulée en 2016, lors de la fête chrétienne de Pâques. C'est en Écosse. Vous allez nous raconter cette histoire qui probablement est à l'origine de ce petit traité que vous venez de publier.
Alors, autour de la fête de Pâques 2016, un épicier d'origine pakistanaise, installé en Écosse depuis une dizaine d'années, poste, juste avant Pâques, sur son compte Facebook personnel, un petit mot pour souhaiter de joyeuses Pâques à ses compatriotes chrétiens. Compatriotes, il parle des Écossais. Et quelques jours après, cet épicier, qui vient d'une minorité musulmane pakistanaise, est assassiné par un autre musulman. Et ben, je ne connais pas l'affaire de très près, mais ce qu'on ont dit les journaux sur le moment, c'est que d'après l'enquête de police, le statut Facebook sympathique qui avait été posté quelques jours plus tôt est la raison principale de ce meurtre. Donc on se retrouve devant un acte d'une barbarie totale. Je ne comprends pas du tout comment on peut tuer quelqu'un parce qu'il a souhaité de joyeuses Pâques aux chrétiens. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'au moment où c'est arrivé, je travaillais pour un colloque à Beyrouth sur un petit texte médiéval, une fatwa, un avis juridique d'un auteur classique, Ibn Taymiyyah, qui portait précisément sur ce qu'il convient de faire quand un musulman socialise avec les chrétiens au moment de la fête de Pâques. Et Ibn Taymiyyah disait, il faut les prévenir que c'est interdit, et s'ils persévèrent, ils doivent être mis à mort. Et je me suis dit, c'est étonnant, voilà que j'ai un texte médiéval, ancien, d'un auteur qui est un véritable intellectuel musulman, qui va dans le sens de ce fait divers atroce qui semble être de la barbarie pure. Et je me suis dit, je vais essayer de comprendre, grâce à mon auteur classique, quels sont les ressorts de cette barbarie-là ? Comment on peut expliquer un geste qui semble inexplicable, parce que le fanatisme nous paraît toujours inexplicable et fou. Et je me suis dit, cherchons donc les raisons du fanatisme.
C'est ça, vous avez voulu vous mettre dans la tête d'un fanatique. Alors, quelques mots quand même sur Ibn Taymiyyah, que vous étudiez depuis quelques années. C'est donc un théologien médiéval du XIVe siècle qui inspire aujourd'hui les djihadistes.
Alors, c'est l'auteur un peu de référence de toute la mouvance salafiste, bien au-delà du seul djihadisme. Mais effectivement, les assassins du président Sadat s'étaient réclamés d'une fatwa d'Ibn Taymiyyah, donc en 1981, une fatwa qui était dans le contexte des invasions mongoles. Donc ça n'avait pas grand-chose à voir, mais on l'a lu hors de son contexte. Et c'est un auteur, oui, qui imprègne beaucoup la piété de mouvements, disons, rigoristes de l'islam contemporain.
Alors, on va revenir sur le mot fanatisme. Vous le définissez comme une maladie spirituelle. D'ailleurs, ce mot nous vient des Lumières, notamment de Voltaire, et que cette maladie spirituelle, curieusement, pour la guérir, eh bien, il faut aller vers Dieu. Alors que finalement, les philosophes des Lumières n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, pour eux, il fallait s'éloigner de Dieu pour guérir du fanatisme.
Oui, il me semble, d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je partageais cette idée assez commune, selon laquelle le fanatisme est un excès de religion, et que pour en guérir, il faut mettre un peu moins de religion dans tout ça. Et il me semble pourtant que des siècles de sécularisation, tels qu'on a pu les connaître en Europe, n'ont pas réduit le fanatisme religieux. On voit très bien que le monde dans lequel nous vivons en est au contraire extrêmement marqué. Pourquoi ? Parce que je crois que ce diagnostic est faux. Je ne crois pas que le fanatisme soit un excès de Dieu. Même si les fanatiques eux-mêmes citent Dieu à tout bout de champ, ils en ont évidemment plein la bouche, mais en réalité, il me semble, et dans le petit livre, j'essaie d'analyser quelques cas précis, au fond, le ressort du fanatisme, c'est qu'on a remplacé Dieu par quelque chose d'autre.
Par
ce qu'on
idoles.
Appelle traditionnellement... Exactement, de l'idolâtrie. Et alors l'idolâtrie, c'est pas seulement remplacer Dieu par la statue de Jupiter, c'est bien plus souvent remplacer Dieu ou bien par des concepts tout à fait séculiers, et ça a pu être historiquement la race, la classe, le progrès, l'histoire, la planète, si vous voulez, tout ça. Ce sont des objets qui en soi peuvent être légitimes, mais qui peuvent être pris comme objets d'adoration. Ça peut être aussi, et ça c'est plus subtil, des objets religieux, des choses qui pour les croyants viennent de Dieu ou conduisent à Dieu. Ça peut être la Bible par exemple pour un chrétien, on peut faire de la Bible une idole. Moi je vais pas vous dire que la Bible c'est pas bien, au contraire la Bible c'est très bien de mon point de vue, mais ça n'est pas Dieu. C'est un moyen d'aller vers Dieu. Et quand on fait de ces éléments-là, qui sont des éléments naturellement finis, parce que seul Dieu est infini, des éléments relatifs, parce que seul Dieu est absolu, quand on les traite comme s'ils étaient infinis et absolus, alors on risque de tomber dans le fanatisme. Parce qu'on est prisonnier des limites de l'objet qu'on adore. En revanche, l'infinité même de Dieu, pour un croyant, est une espèce d'antidote au fanatisme, parce que le croyant se rend bien compte qu'il ne maîtrise pas son Dieu, qu'il ne le possède pas, qu'il ne peut pas mettre la main dessus. Alors que quand on a réduit Dieu à un petit aspect qu'on maîtrise bien, là, on peut avoir l'illusion de le maîtriser, de le posséder, et alors le fanatisme commence.
Vous proposez, frère Adrien Condiard, hein, plusieurs pistes pour mm-hmm. guérir en quelque sorte de cette maladie religieuse qu'est le fanatisme. D'abord, développer l'esprit critique. Ensuite, pratiquer le dialogue interreligieux, et puis aussi la prière et le silence. Alors déjà, développer l'esprit critique. Quelques explications, parce que ce mot, la réflexion critique en religion, est souvent mal perçu, mal compris.
Oui, ce que vous appelez la réflexion critique, c'est même ce que j'appelle d'un gros mot, celui de théologie. Alors la théologie n'est pas le pur annonnement d'un catéchisme, loin de là, c'est au contraire la réflexion critique sur la révélation et sur la foi, sur ce qu'on croit. Quand je dis critique, ça ne veut pas dire négatif, ça ne veut pas dire qu'on en dit du mal, ça veut dire une réflexion consciente d'elle-même, consciente de ses limites. Le christianisme, comme d'ailleurs l'islam, ont développé historiquement cette réflexion théologique qui est malheureusement, dans la France d'aujourd'hui, complètement sortie de la culture commune. On n'a pas du tout accès à la théologie, aux outils de la théologie, et je pense que c'est regrettable parce que ça laisse les croyants et les non-croyants d'ailleurs un peu désarmés, pour ne pas dire analphabètes, devant les discours religieux.
Donc vous pensez qu'une absence de théologie dans la lutte contre la radicalisation, par exemple, c'est une erreur ?
Ah, je pense que c'est un vrai danger. Je pense que c'est un vrai danger à tous les niveaux, et notamment quand vous avez un lycéen qui pour la première fois se trouve en contact avec un discours religieux enthousiasmant, parce qu'on lui parle soudain d'infini, d'éternité, de pureté, de sainteté, de choses comme ça, s'il n'a aucun outil pour aborder ce texte avec intelligence, il est à la merci d'un usage dangereux par des recruteurs djihadistes ou par qui vous voulez.
Le dialogue interreligieux que vous pratiquez, hein, c'est même l'ADN de l'IDEO, l'Institut Dominicain d'études orientales au Caire. Ce dialogue interreligieux, alors oui, c'est effectivement une très bonne voie. Simplement, il faut uniquement qu'on parle de Dieu, pas de nos identités, pas de notre... uniquement de Dieu.
Nos auditeurs vont peut-être penser que je fais référence au dialogue entre le pape et le grand imam d'Al-Azhar et des dialogues institutionnels comme ça. Je dis, non, pas du tout. Le dialogue interreligieux, c'est le dialogue des croyants qui, sincèrement, à leur manière, essayent d'échanger sur leur foi. Et ça n'a rien de facile, ça n'a rien d'évident, parce que il y a un préalable essentiel à un véritable dialogue des croyants, qui est l'amitié. Pour arriver à se faire confiance, arriver à partager sur des sujets aussi intimes.
Vous écrivez même que vous avez vécu des moments de grâce très émouvant, notamment quand un musulman m'a parlé de Dieu d'une façon qui m'a donné de la chair de poule, parce que j'ai entendu l'Esprit du Christ à l'œuvre en lui. Adrien Candiar.
Je crois que, effectivement, ce genre de rencontre, en vérité, entre deux croyants, deux fois différentes, est un désarmement de tous les fanatismes, parce que on y découvre que, sans jamais renoncer à ce qu'on est et à ce à quoi on croit, on y découvre combien Dieu est plus grand que ce que j'en comprends.
Alors on terminera sur la prière et le silence. Le silence d'ailleurs qui est très peu pratiqué par le fanatique, qui a peur du silence en fait, qui parle beaucoup, c'est vrai que les fanatiques parlent beaucoup.
Parce que le silence est le lieu où on peut se trouver face à Dieu dans son immensité, dans son infinité. Et on en entrevoit quelque chose. La prière silencieuse, pas la prière qu'on remplit de formules et de phrases à dire et de choses à répéter, mais la prière silencieuse est une expérience pour tous les croyants, je crois, assez intimidante, parce que soudain on se dit mais en fait Dieu je ne le possède pas, je ne le maîtrise pas. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je me place même face à lui? Et je crois que cette expérience-là est un antidote très puissant face aux tentations fanatiques que je peux avoir au fond de mon cœur, parce que je découvre l'infinité de Dieu et sa grandeur.
Merci Adrien Candiar. Je rappelle le titre de votre livre « Du fanatisme, quand la religion est malade » publié aux éditions du CERF. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Abado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.